Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, faut-il rendre obligatoire la psychothérapie? C'est l'automne, les jours déclinent, les vacances d'été sont déjà loin, celles de Noël se font attendre. Au travail, ça ne s'arrange pas. À la maison, c'est de pire en pire, gros coup de déprime, il est peut-être temps d'aller voir un psy. Oui, mais quel psy? Psychologue, psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute, de quelle obédience? Lequel est le moins cher? Laquelle est remboursée par la sécurité sociale? Bienvenue dans le maquis français de la psychothérapie. Ce ne sont pourtant pas les praticiens qui manquent, mais en dépit d'un réseau conséquent de professionnels, la France reste un des principaux pays consommateurs de psychotropes. C'est paradoxal, d'autant que l'assurance maladie recommande de privilégier le recours aux psychothérapies plutôt qu'aux antidépresseurs. Sauf que si ces derniers délivrés sur prescription médicale sont remboursés, ce n'est pas toujours le cas pour les premières. Autre paradoxe, cet accès compliqué et parfois coûteux va de pair avec une psychologisation de plus en plus forte de nos vies et de la société. Alors dès lors, faut-il revoir l'organisation de l'ensemble de ce secteur pour le rendre plus efficace et plus efficient? Et pourquoi pas rendre obligatoire la psychothérapie? C'est autour de cette étrange question que nous allons discuter ce soir en compagnie de trois invités. Marion Le Boyer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre, responsable du pôle de psychiatrie des hôpitaux universitaires Henri Mondor à Créteil. Vous êtes la directrice d'une fondation fondamentale, fondation de recherche sur les troubles psychiatriques sévères. Vous venez de publier chez Fayard, enfin une coédition avec justement votre fondation et l'Institut Montaigne, Psychiatrie l'état d'urgence. Et vous avez rédigé cet ouvrage avec Pierre-Michel Liorca. Et vous venez d'obtenir un prix qui est le prix...
Le prix de la recherche en psychiatrie européenne.
Eh bien, félicitations.
Merci beaucoup.
Notre deuxième invité, Jacques Borgi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychologue clinicien, vous êtes le secrétaire général du SNP. Le SNP, c'est le syndicat national des psychologues. Ça regroupe combien de professionnels en France? Et est-ce que ça regroupe d'ailleurs l'ensemble des professionnels de la psychologie?
Oui, le syndicat national des psychologues regroupe tous les professionnels de la psychologie, qu'ils soient des psychologues cliniciens, des psychologues du travail, toutes sortes de psychologues.
Ce qui fait combien à peu près?
Il y a environ 45 000 psychologues en France.
Troisième invité, Armel Auger, bonsoir.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à la revue Oui Demain, spécialiste des questions de société. Et vous aussi, vous venez de publier un ouvrage. Vous devriez voir quelqu'un, il faut que je lise le sous-titre, qui est encore plus explicite. De la maternelle à la carte senior, comment les psys s'immiscent dans nos vies. C'est un ouvrage que vous venez de publier aux éditions de L'Artilleur. Alors si nous avons choisi de faire cette émission ce soir, c'est parce qu'il y a un certain nombre d'actualités, notamment demain, la Journée mondiale de la santé mentale. Santé mentale qui est définie de la manière suivante par l'Organisation mondiale de la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Est-ce qu'au regard de cette définition, Jacques Borgi, on peut dire que les Français sont en état de bonne santé mentale ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à évaluer?
C'est sûrement difficile à évaluer, d'abord parce que le bien-être, c'est une notion qui est assez individuelle et qu'on peut se sentir bien ou se sentir mal, alors que des professionnels trouveraient qu'il n'y a pas forcément de pathologie. Donc je crois que c'est un peu compliqué, effectivement, de simplement poser la question, est-ce que les Français sont dans cet état de bien-être?
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette réponse, Marion Le Boyer? Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a peut-être des indices qui peuvent aider à y répondre, notamment les chiffres qui sont communiqués par l'assurance maladie, dépenses en traitement psychiatrique et psychotropes, 23 milliards d'euros? Ça, ce sont les chiffres pour 2016, 7 millions de Français concernés.
Alors je pense que c'est effectivement important de préciser les mots, parce que ça recouvre des choses extrêmement différentes. Moi je suis psychiatre, donc je ne m'occupe pas de la santé mentale, mais je m'occupe de maladies psychiatriques et de maladies mentales, qui sont des maladies extrêmement fréquentes dans notre pays, comme dans toute une série, quasiment le monde entier, puisqu'on sait aujourd'hui qu'un Français sur cinq aura au cours de sa vie une maladie mentale. Et quand on parle de maladie mentale, on parle de pathologies très diverses, qui sont la dépression, qui sont la schizophrénie, qui sont l'autisme, qui sont toute une série de pathologies extrêmement hétérogènes.
En revanche, la psychiatrie rentre dans le cadre des psychothérapies.
Alors, c'est pas qu'on rentre dans le cadre des psychothérapies, c'est que dans les stratégies thérapeutiques que nous proposons à nos patients, on s'appuie sur ce qu'on appelle un trépied, c'est-à-dire qu'il faut choisir le bon médicament au bon moment pour le bon patient, associé à la bonne stratégie psychothérapique, et il y en a énormément, et il faut les utiliser de façon extrêmement précise. Plus un autre élément qui est extrêmement important, qui est la prise en charge de ce qu'on appelle la santé physique ou la santé somatique, avec toute une série de règles d'hygiène de vie qui sont aussi extrêmement importantes.
Alors on va tout de suite rentrer dans le vif de la discussion, on verra bien s'il y a plus ou moins de débat, avec une question que vous posez, Armel Auger, dans votre livre. Vous en posez un certain nombre, des questions candides, faussement candides hein, d'ailleurs, puisque j'évoquais notamment cette consommation de psychotropes par les Français. Vous avez la question suivante. Comment fait-on pour demeurer le champion toute catégorie d'ingestion, d'anxiolytique, d'antidépresseur, de somnifère dans un pays qui compte aujourd'hui le plus grand nombre de psys au mètre carré? C'est vrai, c'est assez étrange. Pourquoi on a autant recours aux psychotropes alors qu'il y a autant de professionnels auprès desquels on peut se tourner pour engager des psychothérapies?
Tout à fait. Bah, c'est la question qui pose justement le problème de est-ce qu'on va vraiment mal? Comment, vous disiez tout à l'heure, est-ce que les Français vont bien? A priori, en tout cas, eux-mêmes ne se sentent pas bien, puisque on dit qu'il y a près de 40% des Français qui ont vu ou qui voient un psychothérapeute, et on verra tout à l'heure qu'est-ce que recouvre le terme, parce que c'est là où c'est compliqué, ou qui ont envie d'aller voir, notamment pour les plus jeunes. Et il y a cette consommation quand même extrêmement importante de psychotropes, d'anxiolytiques, etc. Donc, eux ne se sentent a priori pas bien, mais ils ne se sentent pas bien par rapport à quoi? Quelle est cette notion du bonheur en plus, comme disait il y a bien longtemps François de Closette, c'est cette notion aussi vers laquelle on court entre le bien-être, la santé mentale, le bien-être et l'état d'euphorie vers lequel aussi on dit qu'il faut être et ne pas gérer mal ces problèmes. Voilà, c'est toute la distance qu'il y a entre le bien-être, le fait de supporter les aléas et les chagrins de la vie.
Armel Auger, pardonnez-moi, mais la question que vous posez, elle porte aussi sur ce paradoxe qui consiste à faire le constat d'une forte consommation de psychotropes, alors que les personnels qui sont en mesure de faire des psychothérapies, psychologues, psychanalystes, psychiatres, psychothérapeutes sont très nombreux.
Très nombreux.
Est-ce que ça veut dire que on peut à la fois suivre une psychothérapie et avoir des médicaments qui vous aident, ou bien est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème peut-être d'accessibilité à ces professionnels?
Bien sûr qu'on peut suivre une psychothérapie et avoir des médicaments, puisque ça vient aussi du fait des doubles et triples casquettes. Et on en parlera sûrement tout à l'heure de c'est quoi, qui est derrière une psychothérapie? Est-ce que c'est un psychiatre, un psychologue, un psychanalyste? Il faudra en parler, ils sont importants. Est-ce que c'est un comportementaliste? Est-ce que c'est quel type de psychiatrie? Quel type de psychothérapie? Si vous allez voir un psychiatre, il peut vous faire suivre une psychothérapie, mais à un moment donné, décider aussi de vous donner des médicaments.
Jacques Borgi.
Oui, alors. En France, effectivement, beaucoup de choses passent par la médecine. C'est-à-dire que quand c'est des problèmes qui sont psychiques, ils sont quand même pris en charge par la médecine, c'est-à-dire effectivement avec des médicaments. Peut-être que on a un petit peu raté quelque chose au niveau de la grande ouverture de la psychiatrie qui avait été prévue avec les CMP, les centres médico-psychologiques, qui aurait dû normalement être une vraie porte d'entrée permettant à toutes les personnes qui avaient besoin de soins psychiatriques ou psychologiques d'avoir effectivement un espace pour. On sait aujourd'hui que ce sont des institutions qui manquent de personnel et qui sont donc avec des listes d'attente énormes, voire même qui ne prennent pas tout le monde parce que on réserve les places pour des personnes qui relèvent plus de la psychiatrie, donc toutes les autres se trouvent effectivement un petit peu en déshérence et se tournent vers les psychologues qui exercent en libéral, mais à ce moment-là, il n'y a effectivement pas de prise en charge financière des consultations.
Oui, Armel Auger. Oui,
je pense que surtout ce qui est important, c'est de délimiter justement les rôles. Quelle est la différence? Quels sont les rôles de chacun? D'un psychothérapeute, d'un psychologue, d'un psychanalyste. Vous voyez, c'est là, je sais que les usagers potentiels sont vraiment paumés quand ils cherchent quelqu'un et qu'on leur dit vous devriez voir quelqu'un. Il y a un mélange des genres qui est quand même assez impressionnant.
Il y a un défaut de définition des différents rôles aujourd'hui, Marion Leboyer, qui pourrait expliquer peut-être qu'il y a un problème c'est sans doute pas le seul, mais d'accessibilité justement vers les psychothérapies.
Alors tout à fait, il y a plusieurs problèmes. Il y a un premier problème qui est un problème d'information du grand public, des usagers, mais aussi d'un certain nombre de professionnels qui se perdent avec toutes les stratégies thérapeutiques dont on vient de parler de façon un petit peu imprécise. Donc il y a un problème d'information et il y a un problème aussi d'organisation du parcours des soins qui n'est absolument pas clair pour les usagers qui de fait se perdent, ce qui entraîne par exemple un retard du diagnostic extrêmement important en France et très préjudiciable à la qualité des soins puisque comme toute pathologie, plus on arrive tard aux soins, plus mauvais est le pronostic.
Le parcours de soins, pour ce qui est on va dire de la médecine classique, je ne sais pas si vous apprécierez cette façon de parler, mais en tout cas ça passe par le médecin généraliste. Pour les psychothérapies, ça ne fonctionne pas comme ça. Il ne faut pas d'abord aller voir son médecin général et puis ensuite il va vous orienter en fonction des spécialités, Marion Le Boyer.
Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on soit extrêmement précis, c'est-à-dire ce qu'on appelle les psychothérapies, et j'espère qu'on parviendra pendant cette émission à les définir parce qu'il y en a énormément et qu'il faut préciser aussi. Il faut vraiment préciser ce point-là. Il fait partie d'un ensemble de stratégies thérapeutiques. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un qui a une dépression ou qui a une schizophrénie qu'il va avoir ou une psychothérapie ou un traitement médicamenteux. Ça, c'est un débat qui est totalement dépassé. Et je pense qu'il faut que ça soit parfaitement clair, qu'il y a une complémentarité entre des prises en charge, des pratiques et des professionnels qui doit être décrite de façon précise pour que les usagers s'y retrouvent.
Mais cette complémentarité, qui serait le mieux placé, alors justement, pour tenter de guider le patient qui se retrouve un petit peu perdu dans cette offre absolument pléthorique, Jacques Borgi ?
Alors, ce qui est certain, c'est que à ma connaissance, il n'y a pas d'étude en France. Il y a une étude britannique qui a montré que ce qui était intéressant, c'était de mettre en avant le fait que ça soit les personnes qui puissent décider d'elles-mêmes si elles vont aller consulter en premier. Et pour ça, il faut qu'effectivement, ils aient la possibilité d'aller voir leur médecin généraliste s'ils le souhaitent, mais directement un psychologue s'ils le souhaitent aussi. Parce que si on ferme cette entrée, si on ne met que l'entrée par le médecin généraliste, pour certaines personnes, on a un délai d'attente qui va jusqu'à 8 à 9 ans, parce que les gens reculent le moment de consulter, parce qu'il n'y a pas cette porte d'entrée également auprès des psychologues.
C'est-à-dire d'autant que si j'ai bien compris ce que disait Marion Le Boyer, tous les généralistes ne connaissent pas forcément très bien, très précisément, justement, ce que peuvent être les différentes spécialités.
Oui, je pense qu'effectivement, les médecins généralistes n'ont pas dans leur formation une formation à ce qui existe comme différentes psychothérapies. Et je crois que ceux qui savent le mieux, effectivement, si les psychothérapies sont adaptées, ce sont des psychothérapeutes formés. Hein, donc j'entends effectivement ceux qui ont une formation de psychologue clinicien, parce que on verra que malgré le titre sur les psychothérapeutes, fleurit un certain nombre de gens qui exercent hors du cadre réglementé, ce qui est quand même assez étonnant qu'en France, on puisse laisser des gens dire qu'ils font de la psychothérapie hors du cadre réglementé.
Armelle Auger.
Oui, et le problème, c'est que les psychothérapeutes dont la profession a été réglementée relativement de façon récente, hein, en 2010 puis en 2016, ils doivent être inscrits à un annuaire des psychothérapeutes. Le problème, c'est que bon nombre d'entre eux n'ont pas voulu s'inscrire sur cet annuaire et bon nombre d'entre eux ne veulent pas justement être coordonnés sous par une structure médicale qui serait par exemple celle de la psychiatrie.
Pour quelle raison ? Parce qu'ils ont peur de perdre leur autonomie ?
De leur indépendance, etc. Ne parlons pas des psychanalystes qui, eux, disent qu'ils sont totalement à part, qu'ils ne veulent pas être réglementés, qu'ils ne veulent pas rentrer dans un cadre ni de retour sur leur efficacité. Il y a eu des enquêtes qui ont créé une polémique absolument effarante quand on a voulu justement faire un retour d'efficacité sur la psychanalyse par rapport notamment aux psychothérapies de type comportementaliste. Donc voilà, il y a aussi il faudrait peut-être déjà réglementer, faire un retour d'efficacité quand c'est possible sur ces fameuses psychothérapies dont c'est un inventaire à la Prévert, ces psychothérapies. Hein. Alors, je rappelle, plus de 500.
J'aimerais justement savoir si Marion Le Boyer et Jacques Borgi considèrent qu'il y a un défaut de réglementation aujourd'hui. Marion Le Boyer d'abord.
Il y a beaucoup de défauts, il y a peut-être pas que d'un défaut de réglementation. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une inégalité territoriale d'accès aux soins qui est extrêmement importante, parce qu'on peut prescrire, nous, psychiatres, un certain nombre de stratégies psychothérapiques, mais que nos patients n'aient pas accès près de chez eux à un certain nombre de stratégies thérapeutiques. Donc il y a probablement une inégalité territoriale. Et deuxièmement, il y a un énorme problème français qui est le fait que ces psychothérapies faites par les psychologues ne sont pas remboursées. Et que donc, l'accès à ces thérapies est extrêmement compliqué et extrêmement difficile pour un certain nombre de personnes qui ont des problèmes financiers. Et il n'y a aucune raison, alors que l'efficacité d'un très grand nombre de psychothérapies a été démontrée, qu'elles ne soient pas remboursées au même titre qu'un traitement médicamenteux. Et je redis qu'on a besoin des deux pour prendre en charge correctement les patients.
Et le fait que ça ne soit pas remboursé, ça peut freiner l'accès justement aux psychologues. Et est-ce que ça peut avoir un effet, justement, cette absence de remboursement et donc ce frein à l'accès sur le secteur dont vous êtes spécialiste, qui est celui de la psychiatrie? Est-ce qu'il peut y avoir un effet indirect, en tout cas indirect? C'est-à-dire d'avoir des gens qui n'ont peut-être pas été pris en charge suffisamment tôt, peut-être par des psychologues, et qui du coup vont se retrouver en psychiatrie.
Mais
est-ce que ça n'a pas de lien?
Mais il n'y a pas d'opposition, surtout les psychiatres et les psychologues, ils travaillent ensemble. Hein, c'est des métiers qui sont extrêmement complémentaires et qui nécessitent qu'il y ait un parfait accord et une parfaite entente pour que les prises en charge soient faites correctement, comme on a aussi besoin des généralistes dans le parcours de soins.
Jacques Borgi?
Oui, c'est certain que le partenariat entre les psychiatres, les généralistes et les psychologues est indispensable pour les patients et il existe dans la réalité. C'est-à-dire que autant il peut y avoir de vraies oppositions quand il s'agit du niveau d'un certain lobby de part et d'autre, mais quand on est dans le quotidien, moi j'ai une activité effectivement de psychologue clinicien en cabinet et j'ai des liens avec les psychiatres du secteur, avec les médecins généralistes de là où j'exerce sans aucun problème.
Mais ce sont des liens qui se manifestent de quelle manière? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez être amené à recommander des patients auprès d'un psychiatre ou inversement? C'est comme ça que ça se passe?
Oui, ça peut arriver effectivement que j'ai des patients qui auront besoin de voir un psychiatre, parce que peut-être ils auront besoin d'un traitement, peut-être que même ils auront besoin d'une hospitalisation pendant un temps, et qu'à ce moment-là, effectivement, je vais travailler avec un psychiatre du secteur de psychiatrie dont ils dépendent, mais c'est aussi avec des généralistes qui vont avoir adressé le patient ou des patients qui eux-mêmes vont parler du fait qu'il voit aussi un généraliste pour d'autres troubles. Voilà, donc. Mais vous parliez de la réglementation et effectivement, ça me faisait penser que c'est quelque chose qui est demandé par les psychologues au niveau de la profession même de psychologue. Nous sommes une profession qui s'occupe de l'humain. Nous avons des codes de déontologie qui existent. Aucun, à l'heure actuelle, n'a encore été réglementé officiellement. C'est vraiment quelque chose qui manque à la profession et que je pense ce serait une façon aussi de donner une meilleure visibilité à cette profession et de pouvoir dire effectivement que les psychologues travaillent dans des règles déontologiques.
Armel Auger.
Oui, là je voulais dire, on parle là de psychiatre ou de psychologue, deux itinéraires qui sont parfaitement délimités par un cursus universitaire, etc. Une réglementation même si elle peut être élargie. Mais le problème quand on parle des psychothérapies, c'est que bon nombre de psychothérapeutes ne sont ni psychiatres, ni psychologues. Ils ont fait, certains ont un diplôme qui est donc un diplôme européen lié donc à une structure, un syndicat où ils sont regroupés. Mais les bon nombre, encore une fois, de psychothérapeutes ne sont ni psychologues, ni psychiatres. Et c'est là aussi, quand on dit faut-il que la psychothérapie soit donc accessible au plus grand nombre, gratuite, etc.
Voire obligatoire, hein, puisque c'est la question.
Avec qui? Parce que voilà, il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a des psychothérapeutes, il y a des psychanalystes et tout ça. Ce sont des écoles, encore une fois, différentes. Et des cheminements différents.
Sachant que pour ajouter un peu de complexité dans cette complexité, on peut aussi, par exemple, être psychiatre et psychanalyste.
Bien sûr.
L'un n'empêche pas l'autre.
Et psychothérapeute. Vous êtes psychiatre et psychothérapeute.
Mais il faut vraiment qu'on définisse clairement, peut-être, pour nos auditeurs, ce que recouvre ce terme de psychothérapie. Donc il y a des thérapies qui s'appellent en anglais thérapie psychosociale et qui regroupent une variété extrêmement grande de thérapies qui peuvent être prescrites et qui doivent être prescrites à un moment donné du parcours des personnes et avec des indications extrêmement précises. Et qui vont recouvrir des thérapies cognitives ou comportementales, des psychothérapies d'inspiration psychanalytique, des psychothérapies familiales, de la remédiation cognitive, qui sont des choses totalement différentes. Donc là, on contribue pas, je trouve, suffisamment à expliciter pour nos auditeurs ce que sont ces termes et ces spécificités qui sont totalement différentes et qui doivent être prescrites par un professionnel et évaluées, parce qu'on a aussi besoin que ces thérapeutiques, on en évalue l'efficacité pour un patient donné à un moment donné.
Mais dans l'idéal pour vous, quel serait le professionnel référent qui serait le mieux placé pour justement prescrire un parcours de soins dont on voit bien qu'il est, c'est du cas par cas finalement, hein, ce qui est préconisé dans ce que vous dites.
Alors ce qu'on demande nous dans notre livre, pour y revenir, c'est précisément qu'on arrive à organiser ce parcours de soins, cette évaluation diagnostique et ces recommandations thérapeutiques qui doivent être faites. Et pour prendre l'exemple de ce que nous, à la Fondation Fondamentale, on a créé sur l'ensemble du territoire, on a précisément organisé des centres de consultation spécialisés, organisés par pathologie, qui s'appellent les centres experts, au cours duquel on passe du temps avec nos patients pour faire une évaluation diagnostique extrêmement précise et faire des recommandations thérapeutiques, qui sont à la fois le choix du médicament qui paraît efficace au moment donné, mais aussi de la psychothérapie qui peut être la plus importante ou la plus efficace. Je prends un exemple, c'est extrêmement important à un moment en particulier au début de la pathologie d'un patient qui rentre dans un trouble bipolaire ou dans une schizophrénie, de faire de la psychoéducation. Donc d'apprendre à un patient à être compétent sur sa pathologie. Ça fait partie de ce qu'on sait aujourd'hui être extrêmement efficace. Ce type de thérapeutique n'est pas utilisable, pas applicable, pas offerte aux usagers sur tout le territoire.
Jacques Borgi.
Oui, vous demandiez finalement à qui il faut se référer pour ce parcours de soins psychiques. Je pense qu'il faut se référer d'abord aux patients. Et c'est ce que je disais tout à l'heure de cette étude britannique.
Mais sauf que le patient, il ne sait pas à qui il s'adressait.
Ils appellent self-reference. C'est-à-dire qu'effectivement, quand le patient a besoin, bien sûr, il ne sait pas forcément à qui s'adresser. Mais si on remet en place des centres médico-psychologiques avec plus de possibilités d'accès, on avait là un maillage du territoire qui était très intéressant, qui a commencé effectivement à être fait en 1960, qui n'a jamais été jusqu'à ce qu'il aurait dû être. C'est-à-dire que si on avait donné effectivement aux centres médico-psychologiques la totalité des missions qui étaient prévues, c'est-à-dire y compris de la prévention primaire, mais ce qui supposait effectivement qu'on les développe plus, on n'aurait pas cette grande difficulté de savoir quand on n'a pas de connaissances particulières à qui s'adresser. On aurait un vrai service public qui pourrait avoir cette porte d'entrée-là. Les psychologues sont des personnes qui, en règle générale, communiquent bien sur ce qu'ils font et sur les concepts qu'ils utilisent pour travailler. Les patients peuvent donc s'y référer clairement. Nous avons d'ailleurs, nous, le Syndicat National des Psychologues, un annuaire des psychologues qui ont accepté, bien sûr, d'être dedans et qui permet effectivement de s'assurer que ce sont des personnes qui ont des formations et qui suivent le code de déontologie des psychologues.
Vous avez parlé, Jacques Borgi, de prévention primaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça signifie, par exemple, que ce que vous préconisez, c'est plutôt que d'avoir les psychothérapies pensées d'un point de vue curatif, de les penser plutôt de manière préventive, c'est-à-dire de quoi, à partir d'un certain âge, je reviens un petit peu au titre de notre émission de ce soir, faut-il rendre obligatoire les psychothérapies, c'est-à-dire de la même manière qu'on passe des visites médicales, est-ce qu'il faudrait aussi qu'il y ait un accompagnement au moins psychologique de l'ensemble des jeunes Français, par exemple, Jacques Borgi?
Non, bien sûr, il ne s'agit pas de mettre en place des suivis psychologiques pour tout le monde et même pour ceux qui en auraient pas besoin. Ce qui est important,
si on considère que c'est bon finalement pour son état psychique, pourquoi ne pas l'imaginer? Mais en tout cas, pourquoi ne pas banaliser en tout cas cet accès, non?
C'est bon quand on en a besoin. C'est bien que vous puissiez avoir un antidouleur qui peut vous être prescrit facilement, que vous pouvez facilement acheter chez le pharmacien. Il viendrait à l'idée de personne d'en prendre un quand on a pas mal. On va pas se mettre à envoyer les gens chez le psychologue s'ils en ont pas besoin.
C'est non, mais je veux prendre des vitamines, par exemple, pour pas tomber malade, vous voyez.
Oui, mais le psychologue, je crois pas que ça soit fait pour pas tomber malade. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on reste dans quelque chose. Mais par contre, ce libre accès, cette possibilité d'avoir accès à un psychologue. Moi, je reçois régulièrement des personnes qui ont subi des choses très traumatiques dans leur enfance. Et quand ils en parlent, me disent, mais s'il y avait eu quelqu'un, si on avait pu effectivement me dire dans cette situation difficile, je pense à quelqu'un, par exemple, qui a, voilà, été dans le cadre d'un accident de la route avec sa sœur qui était à côté, qui a été renversée, qui est morte dans ses bras. Quelque chose qui a été absolument pas traité. C'est quelqu'un qui a maintenant 50 ans et qui dit à ce moment-là, il est resté plusieurs jours complètement dans un état de mal-être terrible. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas été pris en charge à ce moment-là. Et c'est lui-même qui le dit d'ailleurs.
Alors j'ai entendu que ma proposition un peu farfelue faisait réagir. Armelle Auger et ensuite Marion Le Boyer.
Oui, je vais revenir sur ce qu'on peut appeler la psychologie ou la psychiatrie prédictive. Je sais qu'il y a des psychiatres qui travaillent dans des groupes comme ça d'études prédictive. Je trouve que c'est, ça peut être très soucieux. Je sais qu'il y avait un plan qui s'appelait le plan gamin dans les années 70, où qui était censé repérer des enfants entre guillemets à risque. À l'époque, c'était parce que venaient de foyers dissociés ou de familles monoparentales, etc. Bon, ça revient un peu à mon idée fixe. Attention à trop de psy tue le psy, c'est-à-dire que si on commence aussi à cerner, à pister, à très jeune, pourquoi pas les bébés aussi, les enfants représentent 50% quand même du public et des patients, des psychologues, c'est déjà pas rien. Bon, les taux d'enfants avec les problèmes d'hyperactivité, défaut de concentration, depuis que c'est au DSM, ça s'est multiplié.
Le DSM, rappelez-nous.
Madame nous en parlera mieux, c'est une sorte la bible un petit peu du psychiatre, hein, je le dis de façon très simpliste. Mais donc voilà, c'est quand même quelque chose qui peut stigmatiser très tôt, c'est dangereux. Enfin, à mon humble avis, c'est quand même soucieux, tout ce qui est de l'ordre du prédictif.
Marion Le Boyer.
Je reviens peut-être sur le titre de votre émission qui est « Est-ce que les psychothérapies peuvent ou doivent être obligatoires ?» Je pense que c'est vraiment un contresens de poser la question comme ça. Une psychothérapie, c'est un acte thérapeutique qui doit être prescrit, précisé dans son indication, j'y reviens, et on ne peut pas obliger quelqu'un à faire une psychothérapie. Donc, et c'est pas envisageable non plus ce que vous venez d'imaginer, qui est que tout le monde pourrait avoir besoin d'une psychothérapie ou d'un... C'est la même chose que si on disait que tout le monde avait besoin d'aller chez le kiné ou d'avoir un médicament. C'est absolument pas ça l'idée. Vraiment, une psychothérapie, encore une fois, ça doit être prescrit de façon extrêmement spécifique, avec une durée limitée et avec une évaluation de l'efficacité très précise.
Est-ce que ça devrait toujours pouvoir être remboursé quand on en a besoin ? Et dans la mesure où, si on considère, comme le dit Jacques Borgic, finalement, c'est le patient qui est le mieux à même de savoir s'il a besoin ou pas, justement, de suivre un tel parcours, est-ce qu'il faudrait que ça soit systématiquement remboursé, si tant est qu'on ait peut-être réorganisé, un petit peu mieux régulé, justement, ce secteur, Marion Le Boyer ?
Alors, il y a plusieurs éléments dans ce que vous venez de dire. Moi, je pense qu'effectivement, il faut que ça soit remboursé quand c'est prescrit de façon, encore une fois, spécifique, pour un nombre de séances spécifiques, avec une évaluation spécifique. Et là, oui, tout à fait, c'est ce qui se fait à l'étranger, d'ailleurs. Donc, les choses peuvent être tout à fait précisées et codifiées. Par contre, je ne suis pas sûre que je vous suis sur le fait que le patient soit capable, c'est pas son métier, de choisir lui-même quelle forme de psychothérapie il va avoir besoin. Je crois que c'est vraiment un acte médical en lien avec les psychologues pour essayer d'évaluer de façon précise ce dont on a besoin. Et je pense pas que ça... Il faut qu'il y ait une demande du patient qui présente une difficulté, ressente la difficulté et aille chercher de l'aide. Mais ensuite, il faut que ça soit un travail qui est fait collégialement, aussi avec les familles d'ailleurs, dont on n'a pas encore parlé, mais qui ont besoin aussi d'être dans la boucle pour comprendre bien les stratégies thérapeutiques qui sont proposées.
Il y a une expérimentation qui est menée depuis début de l'année, Jacques Borgic, dans 3 départements, le Morbihan, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne et bientôt le département des Landes, avec des séances chez le psychologue financées par la Sécurité sociale pour des patients qui ont entre 18 et 60 ans et qui présentent des troubles d'intensité légère à modérée. Est-ce que vous, par exemple, vous souhaitez que cette expérimentation elle puisse être généralisée à un moment donné ?
Alors si cette expérimentation devait être généralisée, il faudrait sans doute revoir un certain nombre des conditions dans lesquelles elle est faite. Alors,
notamment sur les tarifs, par exemple, pour les psychologues.
Pour une part, il y a des conditions qui sont liées au fait que c'est une expérimentation, et donc on a forcément, la Caisse nationale d'assurance maladie a réduit un petit peu le champ des personnes qui peuvent être inclus dans l'expérimentation pour qu'elles aient toutes à peu près le quelque chose qui les réunit pour qu'on n'ait pas un panel trop large pour pouvoir faire une étude ensuite. Bien sûr, actuellement, ces expérimentations, les psychologues sont remboursés sur un tarif qui est fixe, sans aucun dépassement possible, qui est beaucoup trop bas par rapport à ce que coûte une psychothérapie chez un psychologue. C'est en France entre 50 et 60 euros pour une séance. Les remboursements sont en dessous de la moitié de ce tarif-là. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose là qui, si c'était généralisé, devrait forcément être généralisé autrement.
Et si c'était généralisé, si c'était aligné en tout cas sur les tarifs habituels, là vous y seriez favorable ?
Oui, si on était... Alors après, l'autre question, c'est cette question de la prescription. Parce que je trouve qu'il est intéressant que les généralistes qui rencontrent des personnes qui ont besoin de psychothérapie puissent effectivement les adresser à un psychologue, ça semble tout à fait intéressant. Mais faire dépendre la psychothérapie d'une prescription, c'est là où il y a quelque chose qui est dommageable, puisque on voit bien que l'étude britannique qui a été publiée dans la revue de la médecine générale britannique dit bien qu'on perd une partie des patients si on fait ça. C'est-à-dire que en première intention, il faut laisser aussi des patients venir directement vers le psychologue. C'est ça qu'on revendique en tant que psychologue, c'est pas d'être dans une indépendance qui nous priverait de contact avec les médecins, mais c'est bien d'être dans une vraie complémentarité, un vrai partenariat où il puisse y avoir ces deux portes d'entrée, si vous voulez, à la fois la porte d'entrée par le médecin généraliste ou par le psychiatre, et la porte d'entrée directe par les psychologues.
Ça peut être à considérer, mais alors là je vais avoir des propos qui sont peut-être encore plus révolutionnaires, que les psychologues sont à même de faire ces prescriptions.
Ben, le psychologue, il fait pas une prescription de psychothérapie, parce que, encore une fois, c'est une indication et c'est quelque chose que le patient va décider de suivre. D'ailleurs, il y a eu une thèse qui a été faite par Anne de Zetter, qui s'est intéressée effectivement aux bienfaits de la psychothérapie sur les personnes. Et une de ses constatations, c'est que pour que les psychothérapies soient efficaces, il faut que le type de psychothérapeute qui a été choisi par le patient lui ait été vraiment choisi par lui. C'est-à-dire que ça fait partie du traitement, si vous voulez.
Alors, on a évoqué ce soir les conditions d'accès à ces différentes psychothérapies. On a vu que c'était un paysage quand même qui est très, très étoffé, très compliqué en particulier pour les patients pour s'y retrouver, et qu'il y a notamment aussi la question du coût qui pose problème. Mais pour revenir et peut-être pour conclure aussi l'émission sur ce qui fait l'essentiel de votre livre, Armel Auger, sur cet excès de psychologisation, vous avez des phrases, notamment j'ai retenu celle-ci: la psy consommée à haute dose ne risque-t-elle pas de nous infantiliser, de nous limiter, de nous régenter sous prétexte de nous prendre en charge? Alors je ne sais pas si dans la psy vous considérez à la fois psychologue, psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute.
La psy, encore une fois, on l'a bien vu là, hein, c'est compliqué déjà de cerner les intervenants. Donc la psy, pour encore une fois l'usager moyen, c'est aussi bien psychanalyste. On n'en a pas parlé, ça vaudrait une émission. Bon, les psychanalystes, les psychothérapeutes, encore une fois avec les psychothérapies, il y en a tellement, un grand nombre de psychothérapies, les psychologues qui interviennent en milieu scolaire, en milieu professionnel, etc.
Mais si on était à ce point, justement...
On a dérapé. Voilà,
il y a Armel Auger, justement, si on était à ce point envahi, on va dire, par la psy ou par les psys...
Non, par le discours psy et un discours qui dérape et qui est galvaudé et qui
veut
plus
ce que je voudrais comprendre, juste
grand-chose.
Armel Auger, juste ce que je voudrais comprendre, c'est-à-dire pourquoi... On fait le constat, alors vous faites le constat à la fois qu'il y a ce discours-là qui est omniprésent, et pourquoi en même temps, dans une émission comme ce soir, on fait aussi le constat qu'il y a un problème d'accessibilité des patients vers des psychothérapies?
Non, il y a un décalage. Les patients ne vont pas peut-être vers la bonne psychothérapie, ou ils ne sont pas accompagnés suffisamment bien pour qu'il y ait un retour positif de cette psychothérapie sur leurs problèmes. C'est une chose. Qu'ils aillent voir des psychothérapeutes, ils vont en voir. C'est énorme. Quand vous voyez les sites, les coachs, etc., qui se disent psychothérapeutes, quand vous voyez pléthore de professionnels, encore une fois, dont l'itinéraire, le savoir n'est pas réglementé, les Français vont voir, ils vont beaucoup voir des psychothérapeutes.
Ils vont trop voir.
Encore une fois, parfois oui. Moi, j'ai eu des psychanalystes, par exemple, qui m'ont dit, mais c'est effarant. Les parents eux-mêmes se disent, voilà, mon enfant va arriver dans l'adolescence. Ah, épouvante. Avant même la première crise, il va y avoir une crise, ça va être un tsunami, on va pas pouvoir s'en sortir. Ils amènent le jeune, l'adolescent, voir un psy. Et les psys disent eux-mêmes, mais c'est là, presque un tiers des patients qu'on voit n'auraient pas besoin d'être suivis par un psychanalyste. On peut voir ça. Moi, j'ai vu des syndicalistes dans le milieu du travail qui disent, ah ben, dès que quelqu'un ne va pas bien, nous-mêmes, on lui dit d'aller voir un psy. Pourquoi? Ça évite de s'interroger sur l'organisation peut-être de l'entreprise qui, elle, est nocive, etc. Sur l'école, il faudrait, madame, que votre enfant aille voir un psy. On s'interroge peut-être pas aussi sur l'école qui n'est plus adaptée aux besoins et à un type de société. Voilà, c'est aussi un problème sociétal et politique.
Alors j'aimerais savoir ce qu'en pense et la psychiatre Marion Le Boyer et le psychologue Jacques Borgi. Marion Le Boyer.
Moi, je rebondis sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Je crois qu'il y a vraiment un problème d'information et que là, dans tout ce qu'on vient de se dire, on mélange des gens qui ont vraiment une pathologie, qui ont vraiment besoin d'être pris en charge et d'être soignés. Et là, il y a un retard d'accès aux soins, il y a un manque d'organisation, il y a vraiment des réformes en profondeur à faire que nous appelons de nos voeux. Et puis, il y a par ailleurs une société qui, et ça, c'est plus un problème sociétal, social, oui, qu'un problème médical. Donc, j'en parle comme monsieur tout le monde et probablement de façon inexacte, mais il y a vraiment des questions.
Vous avez quand même un rôle social important aussi.
Moi, je suis médecin et je m'occupe de gens qui sont très malade. Et c'est ça mon rôle en tant que psychiatre. Il y a par ailleurs toute une série de franges de la population dont vous venez de parler, madame, qui se réclament plus de santé, de bien-être, de stress et de toute une série de conditions qui ne sont pas celles dont nous, les psychiatres, on s'occupe et qui ne sont pas les 12 millions de Français dont on parle dans notre livre.
Jacques Borgi.
C'est-à-dire qu'il y a deux choses quand on parle effectivement de cet accès facilité. Parce que oui, tout psychologiser, c'est pas une bonne chose. En même temps, c'est important que les psychologues soient accessibles. Et c'est bien quand des enseignants, quand des parents peuvent penser que peut-être il y en a besoin. Je crois que après, c'est le psychologue qui va effectivement diagnostiquer qu'il n'y a pas forcément besoin. Et ça m'arrive, moi, de recevoir des enfants parce qu'on dit, voilà, bon, il est turbulent à l'école, etc. Bon, on regarde un petit peu, on voit bien que cet enfant, certes, il est un peu turbulent, mais peut-être qu'il est voilà, dans une classe où il y a des choses qui lui conviennent pas, et il faut bien qu'il l'exprime d'une façon ou d'une autre. C'est un peu difficile pour l'enseignante qui a beaucoup d'élèves, etc. Donc on peut comprendre effectivement qu'il y ait cette réaction-là, de se dire peut-être que le psychologue va faire quelque chose. Mais le psychologue, il n'a pas de baguette magique, sans doute pas plus que les autres soignants en matière de santé mentale. Et puis, si un enfant a besoin de bouger, il a besoin de bouger. C'est-à-dire qu'on ne va pas le soigner parce qu'il a besoin de bouger. On ne va pas le soigner, effectivement, parce qu'il répond à ses parents qu'autrefois, on ne répondait pas.
Enfin, si est-ce que vous n'avez pas parfois l'impression, Jacques Borgi, d'être sollicité pour régler des problèmes, c'est-à-dire pour individualiser un problème qui est finalement un problème plus général à ce que disait Armel Auger dans le cas du travail? On va peut-être estimer que telle personne a des problèmes psychologiques et donc il faut qu'elle soit soignée, alors que c'est peut-être l'organisation, disons, du travail qui mériterait, elle, d'être réformée. Et que peut-être que si ça se passait mieux au travail, ou même davantage, si tout le monde avait un travail, peut-être que les gens auraient moins besoin, justement, de ce type d'aide.
Oui, bien sûr, c'est certain qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont malades du travail qu'on leur fait faire et de la manière dont on leur fait faire. En même temps, en tant que psychologue, je les reçois, ils ont besoin de soins psychiques et je vais leur donner le soin psychique dont ils ont besoin. Ça ne veut pas dire que je cautionne effectivement le type de travail qui les a mis dans cet état-là, ou effectivement ces chômeurs qui vont mal parce que ils sont au chômage, parce que je ne connais personne qui aime ne pas travailler, être privé de son travail, et qui effectivement peut se trouver très mal de ce fait-là, parce qu'il n'avait jamais pensé qu'un jour il perdrait son travail, que c'est quelque chose de très très compliqué, et qu'il va bien avoir besoin d'être pris en charge psychologiquement parce qu'il est victime de cette situation. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas remettre en cause ce qui a provoqué ce qui lui arrive. C'est pas parce qu'on met en place des consultations pour des gens qui ont subi des traumatismes qu'on ne va pas lutter contre les causes des traumatismes dans le même temps, si vous voulez.
Ce que dit l'Organisation mondiale de la santé à propos de la santé mentale me semble assez intéressant par rapport à ce qu'on se dit. Un environnement garantissant le respect et la protection des droits civils, politiques, socio-économiques et culturels fondamentaux est indispensable pour promouvoir la santé mentale. Sans la sécurité et la liberté apportées par ces droits, il est très difficile de conserver une bonne santé mentale. C'est pas si loin que ce que vous écrivez, Armel Auger.
Problème de société, c'est évident.
Pour terminer notre discussion, Marion Le Boyer, juste un mot de votre fondation fondamentale. On l'a dit très brièvement en début d'émission, mais qu'est-ce que vous y faites? Qu'est-ce que vous essayez justement d'apporter dans ce...
Donc c'est une fondation de coopération scientifique qui a été créée il y a maintenant 11 ans par le ministère de la Recherche et qui a 4 missions. La première, c'est d'améliorer la qualité de la prévention et du diagnostic. Et c'est pour ça qu'on a déployé sur l'ensemble du territoire des centres experts spécialisés par pathologie, qui permettent d'offrir et d'évaluer les pathologies présentées par les patients de façon extrêmement précise. Deuxièmement, de soutenir la recherche en psychiatrie. Et troisièmement, de faire de l'information, ce que nous faisons ce soir, et de contribuer à la déstigmatisation et à la meilleure compréhension des usagers et du grand public de ce que sont les maladies mentales, des progrès qui sont faits, en particulier dans le domaine de la recherche.
Et sur la question des moyens, vous avez l'impression que ça change un peu, parce que là, la psychiatrie est revenue sur le devant de l'actualité. réalité, là, c'est après avoir beaucoup alerté justement sur les problèmes qu'elle rencontrait.
Alors il y a plusieurs points, même ceux que vous avez évoqués tout à l'heure. Le coût des maladies psychiatriques est l'un des premiers coûts des dépenses de santé en France, mais ce n'est pas dû aux médicaments, je ne suis pas revenu là-dessus, c'est surtout dû aux hospitalisations, c'est ça qui coûte extrêmement cher. Mais par ailleurs, il y a un manque de moyens, il y a un manque d'organisation et de réforme en profondeur de la discipline pour améliorer ce que nous venons de dénoncer tout à l'heure, c'est-à-dire le manque de clarté des parcours. Et il y a un point crucial, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de moyens pour soutenir l'innovation et la recherche en psychiatrie, ce dont nous avons très besoin, parce qu'il y a énormément de progrès possibles.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Donc Marion Le Boyer, je rappelle, psychiatrie, l'état d'urgence. Armelle Auger, vous devriez voir quelqu'un. C'est chez l'Artilleur. Marion Le Boyer, c'est chez Fayard. Et merci beaucoup Jacques Borgi. Ben, on peut aller faire un tour sur le site, par exemple, du Syndicat national des psychologues, dont vous êtes le secrétaire général. Merci à toute l'équipe de l'émission. Virginie Leduo, Antoine Tricot, Isolde Sicard, Antoine Ulster et Guillaume Laguigné. Émission réalisée par Alexandre Fougeron. Avec à la prise de son ce soir Jean-Guilain Meige, émission que vous pouvez bien sûr réécouter sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Arnaud Laporte, la dispute, c'est dans 3 minutes.
À peu près, en effet, on va parler de musique, vous allez rester à l'écoute pour savoir quel disque peut-être vous procurer par des moyens légaux, Hervé Gardette. Demain, quelle est la question du Grain à Moudre?
Où en est-on du moment populiste? Vous me faites rire. Où en est-on du moment populiste? Ce sera demain.
J'aurais servi à ça aujourd'hui. Et peut-être faire cette émission dans 3 minutes. Si pour l'instant, vous écoutez France Culture, toujours. Il est 19h. On retrouve Aurélie Kiefer pour les titres de l'actualité.